Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte Desreux, la fondatrice de Patine, une marque de vêtements éthiques, culturels et responsables made in France. Avec Charlotte, on échange dans cet épisode sur le temps que cela peut prendre de se chercher et de vraiment trouver son pourquoi de ne pas s'arrêter aux compétences. On discute de l'importance de ne pas s'arrêter aux compétences, de dédramatiser les refus et d'oser croire en son projet. On réfléchit aussi à notre génération et le fait qu'on puisse aujourd'hui avoir plusieurs vies et qu'il ne tient qu'à nous de s'en créer une nouvelle. Enfin, on discute de son parcours d'entrepreneur et chef d'entreprise, de femme, de mère et de beaucoup d'autres sujets qui, j'espère, vous plairont autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un avis sur Apple Podcasts ou en laissant 5 étoiles sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est vraiment ce qui nous soutient le plus, et en vous abonnant pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous laisse tout de suite pour cet échange avec Charlotte, qui commence in medias res, car nous discutions avant offline et trouvant la discussion intéressante, j'ai décidé d'appuyer sur « Enregistrer ».
C'était. Non, on parlait du contrôle qu'on avait quand on faisait très attention à son alimentation.
Ouais, bah, tu disais, moi j'ai essayé de convertir les gens en fait.
Ouais.
Et tu vois, je me souviens voir mes sœurs et mes parents pas manger super bien.
Ouais.
Et tu vois, j'étais tellement triste pour eux, je leur disais, mais pourquoi t'es en train de manger ça? Tu te rends pas compte que tu pourrais manger ça, ce serait tellement mieux pour toi.
Donc il y avait un aspect santé, pas forcément être la plus mince de la terre.
Moi c'était vraiment l'aspect santé. Je me suis rendu compte de l'aspect minceur parce qu'il a toujours été présent dans notre société.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, entre guillemets, dans le sens où moi c'était pas pour atteindre un certain poids, mais c'était pour être la plus saine possible.
Je comprends, ouais.
Mais les extrêmes sont pas forcément.
Et t'étais dans une famille où on se nourrissait pas bien
Écoute, c'était. Au début ça va être l'échange des questions, mais t'inquiète, je vais te retourner la balle après. mais en fait, c'était. Ils cuisinaient pas.
D'accord.
Donc c'était pas un extrême de malbouffe ou genre la famille trop cool ou de la meilleure cuisine tous les jours.
D'accord.
C'était à base de saucisses purées, tu vois, le soir.
Ouais.
Donc c'est ni mal, ni vachement cool, tu vois.
Moi,
donc,
je suis beaucoup plus âgée que toi et j'ai grandi du coup dans les années 80 et 90 ou aussi avec une maman active, des parents qui travaillaient beaucoup, ce que je trouve super parce que c'était un modèle génial.
Ouais, c'est vrai.
Mais effectivement, avec pas le temps de cuisiner et puis aussi cette époque où passer moins de temps à cuisiner, c'est un gain d'efficacité en fait.
Ouais.
Là, c'est maintenant qu'on est en train de parler du temps retrouvé, du retour des choses, de prendre le temps de bien se nourrir, de cuisiner, d'acheter cru et de transformer nous-mêmes. Mais voilà, et à l'époque, c'était vraiment. On était dans ce gain de temps, et pas beaucoup de temps, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'on mangeait pas bien. Enfin, en fait, on cuisinait bien le week-end, et c'était le moment où on prenait le temps en famille, et la semaine, c'était nymphe. Plus, il y avait le côté aussi centre commercial le week-end, ce que je trouvais à l'époque génial.
Ouais.
Et puis du coup, hop, un McDo le samedi midi, un Pizza Hut livré le soir, enfin, voilà. Et du coup, et tout ça correspond, enfin, j'ai le double effet... nostalgique de ça, tu vois, genre il y a un côté un peu magique, un peu Disneyland de tout ça,
c'est vrai.
En même temps le fait que c'est pas la panacée et en plus ça correspond plus du tout à mes valeurs, avec le fait aussi d'avoir des enfants, d'avoir
t'as des enfants,
j'ai deux enfants,
mais tu fais super jeune.
Bah merci, mais en fait je suis très
attends vieille. Je vais essayer de deviner. moi je te jure, je t'aurais vu, j'aurais dit 26-27.
Très bien, j'ai 38 ans, donc tu viens de faire mon année, je vais essayer d'enregistrer, donc je vais pas me
regarder. Ouais, tu vas pouvoir écouter dans les moments où tu verras les rides.
C'est toi, contrairement aux auditeurs, tu as l'image, donc ça me fait très plaisir. mais oui, et du coup, le déclic de manger mieux, d'acheter bon, de penser local, de s'instruire sur tout ça, et de se reconstruire de ce côté-là, ça a été nous le déclic après de Patine, de dupliquer ce qu'on vit dans l'alimentation, l'appliquer à la mode en fait.
D'accord.
C'est vraiment, on a un lien avec ce qui se passe dans la food très très fort.
Ouais.
Je veux dire, notre rêve, ça serait pas trop d'ouvrir une boutique de vêtements, mais ouvrir un lieu où on mange et il y aurait nos vêtements. Quoi. Donc,
ce serait génial comme idée.
C'est trop. Enfin, je sais pas si l'idée est géniale, mais en tout cas, nous, ça nous.
Ouais, ça nous botte.
Je
pense qu'il y a la place pour ce genre de projets aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a les frontières sont de plus en plus lisses entre ce qu'on peut faire ou pas. Tu sais, avant j'ai l'impression qu'il fallait être super cohérent, tu vois, qu'il y avait une espèce de timeline à suivre. Aujourd'hui j'ai l'impression que si t'as envie de quelque chose, tu le crées, tu vois si ça prend, et sinon tu fais autre chose, quoi.
Faut chacun créer sa propre cohérence en fait, et quand on construit une marque, si la cohérence est pas sur le produit en particulier, mais sur la démarche. C'est vrai qu'on peut y greffer plein, ouais, plein de choses, tant que ça répond aux valeurs de développement durable, de qualité et de fun.
Ouais.
Voilà. Et après, je vais te dire, le côté plus cynique, c'est que il y a la place pour ça, mais surtout, il n'y a plus de place pour faire comme les autres et comme,
ouais,
comme avant. Enfin,
c'est vrai.
On en a marre des rues avec exactement les mêmes enseignes. Il y a ces vêtements qui attendent sur les portants toute la semaine, que les gens viennent le week-end. Enfin, voilà, c'est pas possible, en fait. Et c'est, non seulement c'est pas marrant, mais en plus, c'est une stratégie très chère avec trop de concurrence.
C'est vrai, il faut sortir son épingle du jeu, ouais.
Ouais, il faut créer. Et puis voilà, on n'a plus envie de... Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup moins... J'ai adoré à une époque... Enfin, voilà, le mall aux États-Unis, quand je partais en vacances à 15 ans avec mes parents, c'était merveilleux. Enfin, j'adorais. J'avais l'impression vraiment que c'était un parc d'attractions. L'acte d'acheter, de regarder les vitrines et tout, c'était un plaisir énorme.
Ouais.
Et maintenant, ça, on l'a encore un peu, mais on le veut autrement. Parce qu'en fait, acheter en soi, on est très vite chez nous avec la gueule de bois, le sac et le... Qu'est-ce que j'ai fait en
fait, mais ouais, ouais. Truc. Enfin, et moi, je trouve qu'il y a une idée de vertige un peu dans le centre commercial. Moi, généralement, je remarque au bout d'une heure ou deux heures, vraiment max, j'ai super mal à la tête.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, et je crois qu'il y a le parfum, les gens. Alors, en fait, j'adore le shopping, mais l'expérience centre commercial, moi, je suis carrément mieux à découvrir des petites ruelles, tu vois, dans des petites rues de Paris ou de Londres, à la recherche de fripes ou de petits artisans,
de tête,
tu vois.
C'est celui des 8 heures, 2 semaines avant Noël, où t'as toute ta liste de toute la famille, et c'est horrible en fait.
Ouais.
Avec en plus, il fait froid, il fait chaud dans les magasins.
Ouais.
Enfin, c'est pas drôle. C'est
Alors que Noël, c'est trop cool.
Ouais, ouais,
du coup, il faut s'y prendre à l'avance. Oui, il n'est jamais trop tôt pour commencer.
Ouais, et puis ça gâche pas d'aimer, d'adorer la mode et de temps en temps avoir un achat impulsif, un coup de cœur. Au contraire, c'est se libérer la place pour justement pouvoir en profiter quand c'est le cas, quoi. C'est comme binger, quoi. À force, quand on binge sur Netflix toutes les séries, on lit plus, on voit plus rien. Quand on, trop, c'est trop. Trop de parfum, trop de goût. Il faut se laisser un peu de un peu de carte mémoire, quoi.
Faut pas tout saturer tout de suite.
Voilà, exactement.
Et du coup, bah, comme tu l'as dit, toi, c'était une démarche plus éthique qui t'a motivé à créer Patine. Et du coup, je me demande, vu que je connais pas l'origine exacte de l'histoire, pourquoi t'as commencé à travers les vêtements et pas, bah, comme tu dis, par un autre créneau, parce que ça s'y prête aussi.
Alors, moi, j'ai toujours rêvé de faire une marque de mode. C'est vraiment mon truc depuis le début. J'ai attendu très très longtemps. Donc, j'ai écrit plein de projets sans jamais les aboutir. Donc, je suis allée à chaque fois un petit peu plus loin. Mon deuxième congé maternité, j'ai trouvé une styliste avec laquelle j'avais travaillé une ligne pour enfants. J'avais tout un concept, un peu un Cézanne pour enfants, c'était assez chouette. Et puis, mais j'allais jamais jusqu'au bout parce que je pense que je manquais de confiance. Et aussi, je travaillais et j'ai mon job. Donc voilà, on a peut-être moins d'insouciance qu'à 20 ans pour partir et se lancer. En revanche, mon projet, il a énormément évolué avec le temps parce que justement, je trouvais que les marques de mode se ressemblaient de plus en plus et aussi que je trouvais tout ce que j'aimais, je le trouvais en fait, entre le vintage, entre vestiaire collective pour aller trouver un truc Isabelle Marant chouette à moitié prix, une vente privée avec une copine journaliste qui va nous introduire. Voilà, il y avait, ou alors les voyages de temps en temps, on ramène un truc plutôt que... Voilà, donc j'avais plus le goût pour la fast fashion, j'avais plus de goût pour le tout pareil, et je me disais pourquoi, enfin, c'est tellement dur d'entreprendre que démarrer avec juste mon ego de « je veux être une créatrice de mode », bah si moi-même j'en étais pas convaincue, ça allait être compliqué. Et voilà, et en fait, avec Nico, mon associé, on travaillait ensemble, et lui... se voyait bien monter une boîte avec moi, ce qui a été un gros déclencheur parce que je me suis dit, en fait, si on est deux à croire qu'on peut faire un truc, c'est déjà beaucoup mieux.
Ouais.
Et voilà, et lui, tout de suite, c'était je veux faire monter une boîte pour me sentir utile. Et du coup, cette recherche de sens et cette passion de mode, le croisement, ça a été, mais en fait, on a les mêmes préoccupations tous les deux de développement durable, de participer à quelque chose, à un projet qui est beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse, mais du coup qui est motivant, et proposer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Là, on s'est dit, mais c'est merveilleux en fait, parce qu'on va se heurter à tellement de problèmes qu'on va forcément créer quelque chose de nouveau, quoi. Donc, sourcer des matières qui sont pas mises en avant aujourd'hui par les marques, expliquer ce que ça veut dire une mode qui est plus respectueuse de l'environnement, et en même temps, tout ce que moi j'adore, qui est construire une vraie marque avec des références culturelles partagées avec notre communauté, avec un style marqué et aussi s'appuyer quand même un tout petit peu sur ce qu'on sait faire, parce que déjà créer des vêtements c'était hyper dur, mais au moins le faire en ligne, ça c'était toute l'expérience que j'avais accumulée pendant des années, et donc j'étais à l'aise là-dessus. Voilà, ce que j'avais jamais fait, c'était animer une communauté, enfin animer un compte Instagram moi-même, parce que en fait j'avais des équipes qui le faisaient, et du coup réapprendre ça, mais en fait comme moi voilà, ce que je sais faire c'est du e-commerce, de la com, et je sais écrire et j'adore parler aux gens, je suis très curieuse de discuter, et donc du coup ça aujourd'hui avec Instagram c'est magique en fait,
ouais.
Enfin, c'est d'être en
c'est
contact
un peu tout
avec
ça.
Les gens, voilà,
ouais.
Et donc là je suis hyper heureuse quoi, donc parfois c'est un peu comme Tetris, je vois Instagram la nuit, je vois le flux et là je me dis ouais, ça va pas, c'est un bref, mais à part ce trop plein parfois, c'est vrai qu'on se sent exactement là où on devrait être pour l'instant, et c'est une chance. Enfin, tu disais tout à l'heure, c'était le sport, la manière de prendre confiance en toi et d'accomplir.
Ouais.
Moi, ado, et ensuite un peu plus tard, c'était la mode, le style en fait, trouver mon style et me sentir bien habillée.
Ouais.
Et du coup, ça m'a vraiment, dès j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, et ça m'a aidée beaucoup. Et du coup, être vraiment dans la mode, dans ce que j'aime, pouvoir proposer quelque chose de nouveau et en même temps essayer de participer à un truc plus grand que nous, c'est parfait quoi, ça vaut toutes les galères d'entrepreneurs du monde,
j'imagine
que tu vois là, voilà,
c'est toujours le pourquoi qui fait tenir,
mais carrément, enfin c'est pas un mythe marketing quoi, pourquoi on le fait, et tant qu'on n'en est pas sûr de ce pourquoi, voilà, il faut pas essayer de trop post-rationaliser, trouver une excuse à quelque chose, il faut vraiment prendre le temps de se dire qu'est-ce qui va me motiver le matin, surtout les matins où ça sera compliqué, difficile et ça marchera pas.
Ouais, parce que surtout que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent, par exemple, si jamais ils veulent lancer une marque de vêtements, se limitent par le fait qu'ils n'ont pas les compétences. Mais donc toi, si je comprends bien, ni toi ni Nico n'étaient styliste de formation, vous saviez pas vraiment créer des vêtements.
Non.
Donc vous avez trouvé le moyen de le faire en mode start-up, quoi. Vous avez êtes parti from scratch et au fur et à mesure, vous avez appris. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, toi?
Ça l'est encore beaucoup.
Ouais.
Pour plusieurs raisons. Déjà, on n'avait pas les connaissances. Donc, mais ça, c'était pas un vrai problème parce qu'on adore apprendre. Quand on avait fait la liste un petit peu du projet, en sujet clé, c'était apprendre des choses nouvelles. On est hyper curieux et avoir tout un sujet qui est là et qu'on doit creuser, c'est merveilleux.
Ouais.
Et on est quand même à une époque où c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'info, d'aller à la rencontre des experts dans leur domaine. Enfin, on a LinkedIn, on a Instagram, on a les mails.
Les salons même.
Exactement. Ouais. Et puis aussi, je pense que là, on avait enfin la confiance en nous nécessaire pour oser demander et au pire, on nous dit non. Ça, c'est un truc aussi qu'on apprend. Enfin, moi, je sais que plus jeune, il y avait des risques que je prenais pas, ou alors j'osais juste pas demander parce que j'avais peur de me prendre un râteau. Et une fois qu'on a désarmé ça, une fois qu'on se dit mais en fait en vrai au pire on m'envoie bouler, du coup c'est beaucoup plus facile. On a vendu chez Colette et j'ai écrit une lettre à Sarah de Colette pour lui expliquer pourquoi je pensais qu'il fallait vraiment qu'elle nous prenne dans son magasin, et si j'avais pas écrit cette lettre, on n'y serait jamais allé. Et il y avait déjà tellement de chances qu'elle dise non, qu'elle ne réponde pas, qu'il fallait au moins tenter le truc. Et au pire, elle disait non, effectivement, ou elle répondait pas, et c'est pas grave. Et c'est vrai que ce pas grave-là, une fois qu'on l'a compris, on ose beaucoup plus. Donc ça nous a aidé à aller dans un domaine qu'on connaissait pas. Et après, quand c'est le rêve de sa vie, en fait, faut y aller, quoi.
Toi, c'était le rêve de ta vie?
Mais ouais. En fait, plus jeune, je voulais être actrice. Donc, du coup, j'ai fait le cours Florent en même temps que l'ESSEC, l'école de commerce.
Ouais.
J'ai arrêté au bout de 2 ans parce que j'avais pas du tout confiance en moi.
Ouais.
Et j'avais aussi la double... J'étais pas encore à l'aise assez avec mon image, je savais pas la maîtriser. Et j'étais pas... du coup, le regard de l'autre, c'était tellement difficile que c'était même insurmontable. Et aussi, je pense que j'avais trop... je confrontais aussi l'histoire de l'école de commerce qui emmène vers des carrières où on gagne plein d'argent, c'est la réussite assurée, voilà. Et de l'autre côté, c'était un chemin, rien à voir. Alors j'avais fait une
sépa,
j'avais... Et du coup, heureusement, il y a eu la mode qui est arrivée tout au même moment, comme passion, j'habitais en face de la Samaritaine et j'ai fait un stage à la presse là-bas parce que je trouvais pas de boulot. Et là, ça a été évident. Et donc, du coup, j'ai pu tout de suite avoir cette passion de remplacement, en fait.
Je suis un peu comme ça aussi. J'ai besoin parfois d'avoir une passion du moment pour... En fait, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis aussi, c'est que tu avais besoin d'exprimer ta créativité et ton côté peut-être artistique d'une façon.
Complètement.
Parce que bah, même si les études, c'est très bien, et personnellement, je m'épanouis vachement dans les études, j'ai vraiment besoin d'un équilibre entre les deux, voire les trois, avec aussi quelque chose de très physique.
Ouais.
Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que les personnes qui ne savent pas où ils en sont ou qui se sentent un peu étouffées, c'est parce que peut-être il manque une corde comme ça, parce qu'on on est tellement poussé aujourd'hui à juste réussir au sens académique qu'on oublie énormément le côté hyper humain, tu vois, culturel, créatif. Et je pense qu'on l'a tous en nous, alors que, je sais pas, nos parents ont pas mal essayé de nous étiqueter enfants, et comme eux sont pas créatifs, alors ils n'ont jamais exprimé.
C'est ça,
ils pensaient qu'on ne l'était pas non plus, et moi je finissais par y croire. On rigolait de mes sœurs à quel point on savait pas dessiner, on chantait sous la douche comme tout le monde, on aimait bien la danse, ok, mais c'est vrai que chez moi on me demandait si c'était créatif, mais je répondais tout le temps non, et j'admirais d'une certaine manière, tu vois, l'image du peintre, genre dans son atelier, qui paraissait hyper lointaine.
Le don, surtout le don. Moi,
le don, c'est vrai.
Qui a fait de l'opéra pendant des années, donc c'était juste un don du chant depuis ses 4 ans, qui était du coup très présent, où il y avait l'une d'entre nous qui avait ce don. Mon frère, il est psychiatre, mais en même temps il est pianiste, il compose, il a un talent fou.
Ouais.
Dans la famille, il y a des artistes, et c'est vrai que j'ai toujours senti qu'il fallait j'étais incomplète, en fait. Que dans ma tête, il se passait plein de choses que je réalisais pas en vrai.
Ouais.
Et ça, en fait, c'est comme porter un énorme bagage un peu lourd qui parfois gêne, enfin devient très encombrant parce que on ne sait pas exprimer ce qu'on est. Et j'avais un rapport aussi très scolaire aux études, mais ça fait bizarre comme phrase, mais c'est vrai que j'étais bonne élève, j'ai fait une prépa, mais le sens de ce que je faisais, je sais pas trop, à part, je pense, les cours de littérature, où là, il y a vraiment un apprentissage profond de soi, on se découvre, mais à part dans cette matière-là, sinon, c'était très mécanique,
apprendre
les rigidités, ou passer des concours. Et du coup, c'est pas ça qui forme la personnalité. Et même au début, mes premières années d'école de commerce, je sais que je donnais jamais mon opinion sur un sujet. J'ai compensé par plutôt être rigolote, sympa, mais j'avais pas du tout confiance pour pouvoir
exprimer ton opinion,
et savoir et m'exprimer aussi créativement. Et je savais que ça allait arriver un jour, parce que l'avantage quand même quand on charge des bagages comme ça, c'est que on avance quand même.
Ouais, et à un moment,
le jour où ça sort, ça fait tellement bien qu'on a l'énergie, mais d'un moteur énorme pour le sortir. Et plus on avance, plus on se libère justement de... C'est l'avantage à être moins jeune, c'est qu'on se dit non mais tout cet encombrement qui était du manque de confiance ou... C'était peut-être mignon ado, mais là, en fait, on n'en est plus là. On a envie d'en profiter, on a envie de se sentir bien. Donc là, c'est vraiment pile cette période. Et je pense que chacun peut fleurir.
C'est pas nous.
C'est vrai.
Il n'y a pas de date limite.
Ça peut être très très tôt, et tant mieux. Ça peut être plus tard, on peut avoir plusieurs vies. Mais je pense qu'on peut... Enfin, je comprends maintenant ce que ça veut dire se réinventer et devenir qui on veut être sans du tout renier, enfin, tout en étant très bien avec qui on est. C'est pas un travestissement total.
Pour certains c'est une conversion, et pour d'autres c'est juste oser s'écouter, quoi.
Exactement. Et du coup je suis hyper contente de vivre, parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Je trouve que quand on se met aussi en attitude d'ouverture et d'écouter, on est plus réceptive aussi à évoluer, à changer, et c'est passionnant, enfin,
c'est vrai. C'est vrai, mais surtout.
Un bouquin qui nous change, un film, c'est top, quoi.
Bah d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner un livre ou un film qui t'a fait changer ou que tu conseillerais à notre communauté?
Parce que
personnellement, c'est un truc où j'ai toujours du mal à savoir quel sera le prochain. Et comme je trouve que ça peut transmettre énormément d'émotions, j'aime bien demander à mes invités s'ils en ont un particulièrement qui recommande.
Très récent, puisque mes enfants étaient en vacances, donc j'ai pu retourner au cinéma, ce qu'on fait plus quand on a des enfants. Et je suis allée voir Girl. Je me suis dit que donc c'est un film qui parle de la transsexualité et donc d'un garçon qui veut devenir fille et qui est soutenu par son père. Du coup, le film ne fait pas la caricature des parents qui comprennent rien, voilà. Et en plus, il veut être danseur classique. Et les deux sont extrêmement durs. Parfois, c'est même la danse qui paraît plus difficile.
Ouais.
Et je me suis dit que... En fait, je suis sortie du cinéma en me disant, non mais je vis dans une époque incroyable, malgré tous les problèmes qu'on a, où un film grand public a la portée de pouvoir changer la perception de plein de gens qui vont... juger avoir peur du sujet de la transsexualité juste parce qu'on l'a pas touché de près dans l'intimité d'une personne à laquelle on s'attache en fait. Et là, je me suis vraiment dit c'est génial parce que
c'est un film qui a un pouvoir profond de changement de société quoi.
Ouais, et dans le même genre, il y a la série Pause sur Netflix qui traite justement des transsexuels des années 80 à New York.
D'accord.
Qui avaient pas du tout cette période d'écoute, qui ont souvent fui chez eux et qui se sont recréés une communauté entre eux. Ouais, ça s'appelle Pause parce qu'ils font des balles où ils dansent et ils se mettent des prix de.
Je crois qu'ils faisaient pas mal de voguing.
Exactement, cette période-là et tout. C'est aussi au même moment qu'il y a l'épidémie du sida qui commence et avec beaucoup d'ostratisation de cette population et tout. Et j'ai trouvé ça aussi incroyable d'un point de vue porté grand public pour nettoyer tous ces préjugés et voilà, changer de regard. Et après, bouquin, là je viens de terminer le bouquin de Gloria Steinem, donc qui vient d'être traduit en français, qui est sorti il y a longtemps aux US, qui est un recueil de ses écrits, donc c'est une grande féministe américaine, et c'est un recueil de ses écrits depuis les années 60. Et donc elle explique peu à peu son éveil au féminisme. C'est quelqu'un qui a vadrouillé les US pendant des années avec d'autres femmes pour créer des micro-communautés de femmes fédérées et parce que c'est le fait d'être ensemble qui fait qu'on avance.
Ouais.
Et c'est juste incroyable. Enfin,
okay.
Y a un chapitre sur et si c'était les hommes qui avaient leurs règles, et c'est à mourir de rire à chaque phrase, comme à quel point du coup ça deviendrait un truc génial, dont tout le monde parlerait, un symbole de puissance, tous les exploits sportifs seraient grâce à ce flux abondant, merveilleux. Enfin, elle veut expliquer que c'est à nous de prendre en main le sujet et de changer
la perception des gens autour de ça. Ouais.
Exactement. Elle parle aussi beaucoup par rapport à, je trouve, ta thématique d'alimentation. Comme quoi, dans toutes les, de différentes manières, mais dans toutes les cultures, on a associé la force. En gros, on a donné la part du riche aux hommes. Les hommes ont besoin de plus de calories, les hommes ont besoin de force. Et donc, c'est vrai que dans une famille, c'est la grosse part de gâteau va au garçon parce que t'as besoin de te nourrir. Et donc, en fait, dès la plus tendre enfance, on habitue la femme à être dans un rapport de moins, de peu, de. Et c'est dingue, c'est une inégalité très très forte qui se crée.
Ouais,
et dans ce chapitre, elle parle aussi du coup du rapport au corps. Enfin, je pense que tu vas adorer sur le fait que c'est la femme très maigre était un symbole de richesse et de oisiveté. Et donc, il n'y avait pas besoin d'avoir de force physique pour faire des travaux ménagers ou à l'usine. Et donc, du coup, c'est devenu un rêve pour une classe populaire ouvrière parce que cette minceur symbolise le fait d'être riche, tout simplement. Alors qu'à l'inverse, dans certaines cultures, c'est il faut être gras parce que ça veut dire que justement on est bien nourri, et ce rapport au corps, justement, c'est ça qu'il faut déjouer dans notre société. Elle explique à la fin que il faut des femmes fortes et qu'on a besoin de se nourrir pour tout ce qui nous reste à accomplir pour l'égalité des femmes, et c'est super intéressant. Si on dote le rapport positif au corps à un combat féministe, d'un coup on à fond quoi. Calories, c'est normal quoi.
Ouais, il y a une phrase en anglais, food is fuel. Et je suis totalement d'accord, enfin, donc la nourriture est de l'essence en fait, au sens propre, c'est notre moteur aussi. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose auquel j'aime beaucoup être éveillée, la racine, tu vois, des injustices entre guillemets entre les hommes et les femmes. Et tu vois, typique cette idée d'alimentation, tu vois, on n'y pense pas, c'est quelque chose qu'on a tellement aujourd'hui
assimilé
ouais, que.
C'est beau, c'est comme la bouffe.
Mais vraiment, on l'a assimilé et personne ne penserait à le remettre en question. Et, et même l'idée de l'homme comme plus fort, tu vois, ça remonte tellement loin en fait que. Et ça, c'est une phrase moi qui m'énerve beaucoup, tu sais, des femmes fortes qui effraient les hommes.
Ouais.
Parce que du coup, même eux sont conditionnés à considérer juste les hommes comme forts, tu vois.
Oui.
Et je trouve que comment tu peux être bien dans ta relation de couple si jamais déjà il y a une position de supériorité ou d'infériorité avec la personne avec qui t'es.
Mais là, le féminisme, c'est un combat de confiance en leur force des femmes, mais un combat de changement des hommes. Et les hommes aujourd'hui, effectivement, enfin, la menace de l'homme par la femme, elle est plus que millénaire en fait. Tout a été fait pour désamorcer cette menace. Donc l'alimentation, parce que justement, elle en parle aussi sur l'aspect trop nourrir une femme, ça pourrait lui donner plus, trop de force et donc qu'elle puisse renverser le pouvoir de l'homme. Mais en même temps, ça a des limites puisque c'est la femme qui porte l'enfant. Donc si elle n'a pas assez de force, du coup, ça veut dire qu'on n'assure pas non plus la
pérennité, la survie de l'humanité, etc. Donc, ouais,
c'est, ouais. Mais effectivement, y a un rapport du coup à déjouer hyper fort de la rééquilibrer les forces, en fait.
Ouais,
ça
veut dire
que
l'homme
aussi peut en lâcher un peu et en même temps en rester un homme, quoi.
Exactement, ça ne les menace pas. Enfin, oui, la menace, à mon avis, elle est plus sociétale, enfin, imaginaire, que dans les faits concrètes, quoi.
Ouais, et puis après, c'est les menaces, tant pis, quoi.
Est-ce que tu en parles parfois avec ton mari? Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes tiennent un discours féministe quand c'est leur femme.
Ouais.
Mais par contre, dans les faits, quand c'est par rapport à d'autres femmes... dans le quotidien, parce qu'en fait je pense à ça parce que hier j'ai vu sur, je sais pas si tu connais le compte Instagram Tajoui,
j'adore,
j'en sors bientôt sur le podcast aussi.
D'accord.
Et elle a partagé une capture d'écran d'une femme qui disait qu'elle était indignée parce que son mari en gros lui disait que il avait assisté en gros à des hommes qui emmerdaient une femme dans le métro, je crois.
Ouais.
Et donc sa femme lui disait mais t'as rien fait et tout, enfin non, lui disait je trouve ça aberrant qu'il y ait des hommes qui fassent ça et tout. Et donc sa femme elle dit jamais ça avait été toi, moi j'aurais levé la voix, j'aurais dit qu'on traite pas une femme comme ça et tout. Et elle lui dit mais t'as fait quoi du coup? Il dit ah bah j'ai rien dit, de toute façon c'était des jeunes, c'était pas toi, donc qu'est-ce que tu voulais que je fasse?
Ouais.
Et j'ai trouvé ça vraiment énervant, quoi, parce que je me dis mais c'est, vous pouvez pas choisir votre féminisme, les gars, j'en sais pas quand
oui,
ça vient à votre femme
quoi.
Ouais, exactement.
Non, je pense que pareil, la culture ambiante, l'actualité ambiante et les films, les séries et tout, et la lecture aident aussi les hommes à réaliser que ceux qui se sont concernés par ce combat doivent agir au-delà de leur communauté proche.
Ouais, ouais.
Mais moi j'ai un mari en fait qui est plus que égalitaire au niveau des... Enfin il fait quasiment tout.
Ok.
Il fait la cuisine, il gère les enfants. Chacun notre tour en fait, le fait de monter ma boîte, comme je peux gérer mon temps, le jeudi en fait je vais chercher mes enfants à l'école directement à 4h30.
Ouais.
Comme je peux travailler à peu près comme je veux.
Ouais.
Et lui il fait la même chose le vendredi, donc il arrête de bosser à 4h30, qui a un job quand même assez... et des responsabilités et il s'occupe d'eux et du coup ça nous aide aussi au niveau des gardes parce que ça coûte cher de ne pas gagner d'argent.
Ouais.
et du coup donc on est plus que dans l'égalité. Donc,
ouais.
Quand il va rigoler de mon féminisme, c'est plus parce que il a affaire à une féministe mariée à un homme complètement déjà pro-féministe.
Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est vrai que je pense que ça commence par là aussi.
Ouais.
Si déjà il y a une égalité à la maison, il y a beaucoup plus de chances qu'il se rendre compte que la femme est l'égale de l'homme, voilà, et que ça s'applique à tous les domaines de la vie, quoi.
Ouais, ouais. Mais il y a aussi moi, je sais que je suis en pleine évolution là-dessus. J'avais des copines, il y a quelques années, déjà très féministes. Quand elles ramenaient toute la conversation à ça et que c'était parfois très vindicatif,
elles
disaient « Non, mais ça va. » En fait, il y a eu une vraie... je trouve qu'il y a une différence entre se dire... féministe ou même n'importe quoi et à un moment donné l'avoir totalement assimilé, que ça soit naturel et du coup qu'on le vive en fait, qu'on l'expérimente.
Ouais.
Et je pense que je suis qu'au début de ce que je peux comprendre et du coup après essayer de changer les choses à chacun à sa modeste échelle, mais c'est hyper agréable je trouve quand on a, c'est comme un peu maîtriser un instrument de musique à tel point qu'on peut improviser ou quand on
est à l'aise avec le sujet.
En fait, c'est naturel et on commence à décoder, déjouer ce qu'avant on ne voyait pas. Quand on disait je me voyais féministe, mais je ne voyais pas dans le langage, dans la manière d'agir des gens, le problème. Et en fait, j'avais peur aussi de devenir comme ces copines un peu vindicatives, où si on voit que les problèmes, on vit plus et on est relou.
Ouais.
En fait, c'est pas vrai. On peut très bien avoir le recul nécessaire pour être bien et en même temps être conscient pour du coup agir. Et c'est super intéressant.
Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, comment, entre guillemets, tu choisis les engagements dont tu veux parler avec Patine? Parce que du coup, vous, c'est principalement autour de la question du développement durable.
Ouais.
Est-ce que pour toi, c'était logique de commencer par là? Est-ce que tu souhaites il y a aussi un autre combat par le futur. Tu réfléchis à ça comment?
Mais je me demandais ça ce matin, parce que ce matin il y avait Ségolène Royal sur France Inter qui a dit, elle sort son livre et elle en fait la promotion, et elle a dit que, alors je ne me souviens plus très bien de la phrase, mais c'était qu'il y avait un lien très fort entre féminisme et écologie en fait, et je trouvais ça très intéressant. Et en fait elle ramenait ça aux élections récentes au Brésil et à Donald Trump en disant que, alors il faut lire son livre maintenant, il faut aller chercher plus de preuves, mais qu'il y avait chez ces machos d'extrême droite un refus des accords d'Europe, des accords de Paris
Pour le climat.
Pour le climat, qu'il y avait un retour à toute la misogynie qu'on connaît, et aussi elle associait tout un vocabulaire anti-développement durable qui finalement étaient les mêmes mots que tous ceux qui étaient contre l'égalité femmes-hommes. Et par exemple, c'est de la terre qui peut être fertile comme une femme, mais en fait la souillée, ce mot qui est horrible pour parler d'une femme, mais qui peut fonctionner aussi pour la terre, enfin voilà, donc à creuser, mais j'ai trouvé ça intéressant.
Ouais.
Après en vrai je pense que il faut dissocier la marque de la personne. Nous on a fait une marque qui est en totale et qui sera toujours en totale harmonie avec ce qu'on pense, parce que on peut pas être dans l'instantanéité, on peut pas être en direct avec nos clients, et voilà, on peut pas être sincère si on ne croit pas à 100% à ce qu'on dit, et donc du coup on est totalement en phase. En revanche je pense pas que la marque soit totalement une personnalité ou l'ensemble des centres d'intérêt, on peut pas tout mélanger.
Ouais.
Voilà, par exemple, quand on a fait un t-shirt, ce que je te disais tout à l'heure, avec Génération XX, c'était logique de dire, bon, on va faire un t-shirt qui répond à nos engagements durables et qui est super cool, mais c'est parce qu'on le fait avec Génération XX que c'est un t-shirt d'empowerment sur l'entrepreneuriat au féminin.
Ouais.
Toute seule, je pense que je me serais sentie moins légitime. Alors, il y a plein de marques qui s'embarrassent pas de ça, mais... Voilà. Après, je pense que plus on va évoluer, plus aussi on va... C'est l'intérêt, c'est qu'on va affiner notre projet et peut-être se sentir de plus en plus en confiance pour aller vers des causes qui nous tiennent plus à cœur.
Ouais, et pour l'instant, vous préférez rester cohérent par rapport à...
On a déjà
votre communauté adhère.
Ouais.
Vous écrivez ça quand?
On a créé ça, on est sorti en juin 2017, donc
récemment,
les 4 mois.
Ouais. Et t'as eu l'idée quand, pour un peu voir le délai, tu vois, de l'idée à la réalisation, vu que c'est
souvent... Le projet Patine, on l'a formulé en fait un an avant, donc en juillet 2016. On a formulé qu'on était prêt à quitter notre job pour aller monter ça.
Ouais.
Et du coup, entre, on va dire, janvier, février et juillet... On se voyait avec Nico, donc mon associé, un soir par semaine.
Ouais.
Et on bossait de temps en temps le week-end.
Ouais.
Pour faire des séances de travail sur est-ce qu'on peut bosser ensemble, est-ce que notre projet tient la route, qu'est-ce qu'on va raconter. On a passé beaucoup beaucoup de temps là-dessus. Parfois on se disait non mais là c'est nimp, on passe beaucoup trop de temps sur la vision, les valeurs, mais je regrette pas du tout, parce que on a vraiment on avait envie d'avoir une proposition cohérente et vraiment en phase avec qui on était.
Ouais.
Et c'est aussi une période où on a énormément lu sur la mode responsable, la mode tout court, l'entrepreneuriat. On a rencontré plein de gens, on a expliqué ce qu'on voulait faire très tôt. Et du coup, ça aussi, ça nous a permis de nous approprier le projet, de prendre confiance en nous, et aussi que les gens qui nous conseillaient aussi pensaient à nous quand ils voyaient quelque chose d'intéressant sur ce domaine. On était déjà associés à cette marque, même si elle n'existait pas déjà.
Ouais.
Donc du coup, oui, il y a eu un an et demi avant le lancement.
Et alors, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir aujourd'hui, avec le recul, un an et demi après, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir au début, que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent Parce que généralement, on apprend vraiment tellement de choses. Ouais.
Je réfléchis. Bah, je pense que ce qui a été très long, c'est de ne pas savoir comment on fait un vêtement, parce qu'il a fallu apprendre. Donc à la fois, c'est génial de découvrir des nouveaux domaines, et en même temps, évidemment, on aurait pu aller plus vite en s'associant peut-être, ou en tout cas en ayant autour de nous plus d'experts.
Ouais.
Après, comme on est content du lancement, je me dis pas que c'est absolument nécessairement à refaire, quoi. Et puis après, moins stressé, parce que en fait, je la peur de pas y arriver parfois vient un peu gâcher
des bons moments.
Ça sert à rien, enfin c'est moi déjà je suis plutôt du genre ascension émotionnel moi-même, enfin je sais que j'ai des énormes pics et je peux être tout dépressive, mais il y a des moments où vraiment
j'ai des gros downs,
j'ai des downs pour un truc tout petit parce que je vis le truc trop fort. Donc c'est tant mieux pour les bons côtés, mais après c'est un peu lourd. Et donc peut-être être un peu plus constant, se dire qu'en fait il va y avoir tellement de problèmes que savoir les relativiser très tôt, c'est ce serait mon meilleur conseil.
Ouais.
Se dire que
se pas se laisser abattre
par le
en même temps.
Ouais. Pas se laisser abattre par le moindre truc qui va pas, parce qu'en fait maintenant que j'ai au bout d'un an et demi, j'ai une réaction tellement plus placide qu'avant au problème, on est beaucoup plus ok, bon, ben voilà.
on n'a pas le stock, mais tant pis.
Ben voilà, exactement. Ouais, ouais. Et ça, je pense que, en plus, ça permet d'être créatif. Parce que, par exemple, rétrospectivement, quand on a lancé, on était donc, au salon organisé par Instagram au Carreau du Temple. Et on avait l'équipe Instagram s'était assurée qu'on avait bien du stock à vendre parce que c'était le deal. J'ai dit, ouais, ça devait vraiment arriver la veille ou un truc comme ça. Et en fait, la livraison n'est pas arrivée à temps. Donc, on n'avait rien du tout. Et on a décalé d'une semaine le lancement du site, le shooting, tout. Et sur le salon, on a passé notre journée à montrer un mètre de jersey valider la matière, à la faire toucher comme sur un téléachat, et à montrer un t-shirt, la boum, celui qu'on avait sacrifié parce que touché par 1000 personnes pour cette journée.
Ouais.
En fait, finalement, ce qui s'était révélé un gros problème a été formidable parce que sur notre stand, les gens qui passaient n'avait pas à acheter, et donc ça fait un rapport qui est hyper cool parce que
c'est vrai, il n'y a pas ce côté parfois on n'ose pas parce qu'on va être poussé à l'achat. Ouais, c'est ça.
Là, du coup, ils étaient tranquilles chez nous, puis il faisait hyper chaud, on a mis des limonades, et du coup, c'était vraiment idéal. Et on a doublé notre base Instagram juste sur une journée parce que on était juste à pitcher notre boîte à 800 personnes. Et du coup, chaque galère, il y en a des vraiment relous, mais une galère peut toujours être transformée
en quelque chose de positif.
Et
c'est
ça,
vrai.
Il faut avoir le mindset, parce que sinon, donc c'est pas possible tout le temps. Donc, il faut être un peu plus placide et positif. Je pense que c'est.
Ouais. Et est-ce que tu penses que ça peut s'acquérir cet état d'esprit? Parce que tu vois, moi parfois on me demande des conseils là-dessus et j'essaye un maximum, mais comme c'est vrai que c'est devenu assez naturel, même si j'étais pas du tout comme ça au début, moi je conseille du coup d'écouter des podcasts, personnellement ça m'aide beaucoup, de lire, voilà, d'écouter, de rencontrer, je trouve ça aide aussi pour voir en gros des personnes qui sont dans cet état d'esprit et qui arrivent à nous l'insuffler. Mais tu vois, d'un côté je pense que bon, j'étais quand même peut-être sensible à ça aussi, et je me demande toujours si tout le monde peut l'acquérir ou si, donc si c'est le cas, qu'est-ce que tu dirais? Tu vois, et si toi tu l'avais peut-être avant ou si c'est venu aussi un peu plus tard?
Ah non, c'est. Enfin, là je suis comme un papillon qui sort de ça. Non, mais j'ai pas du tout toujours été comme ça. J'ai eu mal au ventre toute la prépa dès qu'il y avait un examen. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de
stressé et tout.
J'ai eu le syndrome de la bonne élève, de non, mais c'est sûr, je vais avoir deux. J'ai cru que j'avais pas mon bac parce que je voyais pas mon nom, alors j'ai eu une mention très bien. Enfin, tout comme ça, et c'était vraiment sincère. Et donc, en plus, c'est hyper énervant pour les autres parce que.
Ils ont l'impression que.
Et du coup, non, c'était pas du tout acquis, ou inné en tout cas. Mais je pense que ça s'acquiert, que je suis à 20% de ce qu'il faudrait. Enfin, c'est encore hyper difficile. Peut-être que ce qui aide à cette époque, c'est aussi d'avoir accès à la vérité et pas que au truc Instagram parfait. Il paraît qu'il y a, que c'est la mode chez plus jeunes que moi d'avoir deux comptes, le vrai et le faux, le parfait et le real life.
Ouais, j'ai pas mal d'amis qui font ça et qui du coup mettent le compte en privé où ils partagent des... Moi en fait j'ai un compte perso parce que j'ai un compte public, c'est plus cette dichotomie là, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai un peu peur de mettre des photos totalement random, c'est vraiment des amis, tu vois, qui mettent des photos. Moi, j'aimerais pas qu'elles restent sur Instagram, mais c'est vrai qu'il y a cette idée-là.
Oui, d'être un peu plus tolérant.
Ouais.
Comme le compte Tajoui que tu décris, je trouve qu'il permet d'être se sentir plein avec des choses qu'on était tout seul avec ça. Où il y a Shigaises aussi,
J'irai voir.
Génial.
Ok.
Justement, on se sent d'un coup, on est plein à pas être seul sur un truc qu'on voyait tout seul.
Là, je suis d'accord, les réseaux sociaux, ça a permis vraiment d'ouvrir et de montrer que t'es généralement pas seul dans ta merde.
Exactement.
C'est vrai.
Ça t'embête si quelqu'un rentre deux secondes?
Non, pas de soucis.
Parce qu'on est en train de faire des travaux.
Ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, donc là, on parlait d'Instagram, de ta boîte et tout. Ouais. Et est-ce que ça a été difficile pour toi juste de te poser la question je vais entreprendre, je vais créer une nouvelle boîte, mais j'ai déjà deux enfants, j'imagine du coup en bas âge.
Ouais.
Est-ce que tu t'es posé la question ou pas? Parce que j'imagine que les personnes qui nous écoutent, c'est aussi, ça peut être un frein.
Ouais.
Tu vois, le côté culpabilité, le côté. Enfin, après, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, limite, enfin, c'est marrant, j'ai quand même reçu deux femmes aussi entrepreneurs, les deux étaient enceintes quand elles ont monté leur boîte. Mmh. Et donc, comme quoi, rien n'est impossible, ouais, c'est deux bébés en route en même temps, tu vois.
C'est qui?
Alors, c'est Anja, enfin Alexandra Tilges, qui est la fondatrice d'Anja, la marque de
ouais,
mode bain.
D'accord.
Et Florie, qui est la fondatrice de Jolie Culotte.
D'accord, ok,
ouais.
Génial.
Ouais. Et bah, en fait, les deux ne le savaient pas. Enfin,
d'accord.
Je crois que c'était pas forcément prévu, mais
ouais.
Y a peut-être le côté, je sais pas, tout d'un coup tu t'épanouis, tu tombes enceinte aussi.
Ouais,
ouais.
Ouais, c'est possible.
Ouais.
Et, j'ai des copines entrepreneuses qui ont aussi fait avec. Par exemple. Héloïse a des éventails du Velroy, alors ça n'avait rien à voir par rapport à la start-up, voilà, mais qui a relancé une marque d'éventails
du
18e, un projet génial.
Ouais.
Il a trois enfants et c'est, tout est possible.
Ouais.
Alors, des conseils que j'aurais à donner là-dessus, j'ai hésité, mais il y avait un tel désir de m'accomplir que
ouais.
Finalement on se dit que. Je pense que je suis aussi une meilleure maman
en étant
passionnée.
Ouais.
Je vois mes enfants, c'est mes premiers, c'est ma force commerciale. Ils sont incroyables, ils sont à fond, ils regardent les commandes sur
c'est
mon
vrai.
Téléphone, c'est trop mignon. Et un samedi, on était chez des amis où le petit garçon de 4 ans me demande ce que je fais dans la vie et mes enfants avaient l'air de tomber des nues comme si c'était pas évident que tout le monde savait. Et là, bah, Patine, tu connais pas Patine. c'est hyper mignon. Et voilà, je pense que les enfants, ils s'adaptent aussi à ça. Après, en pratique, c'est plus difficile de renoncer à... Moi, je gagnais franchement bien ma vie. Il y a des sacrifices financiers qu'on fait. Qui me motive aussi pour avancer. Parce
c'est
que,
vrai. T'as pas le choix.
Et puis en France, on dit pas assez qu'on a envie de réussir et de pouvoir voyager, avoir un appart plutôt chouette, offrir une belle vie à ses enfants. C'est pas sale, tout ça.
Ouais,
Et l'enjeu, c'est que la réussite économique et la croissance, elle aille de pair avec des engagements durables très forts. Donc du coup. Ça me motive. Et après, concrètement, de toute façon, comme je lançais une marque plus responsable, ça va aussi avec un peu moins de consommation, justement. Donc c'était le bon moment pour...
C'est vrai, pour appliquer ce coup
fraîche. Ouais, exactement. Enfin,
ouais.
Exactement. Et...
Bah, y a cette vague du minimalisme sur lequel je porte aucun jugement, parce que j'essaie de ne pas porter le jugement de manière générale, mais du coup, qui m'interpelle beaucoup.
Ouais.
Parce que vraiment, ça en est à certaines personnes qui mettent toutes leurs possessions dans un sac à dos.
Ouais.
Et tu vois, d'un côté, je suis hyper admirative.
Ouais.
Et de l'autre, je suis là, mais bah, est-ce qu'il faut arriver à de tels extrêmes? Enfin, je suis hyper partagée, tu vois. Je me dis, j'imagine le bien-être que ça peut permettre peut-être de recevoir, de se libérer de toute cette idée de surpossession. Et c'est vrai que moi, je suis la première où parfois, je vais pas bien et je me dis, bah, je vais commander une petite robe, ça me remonte le moral, tu vois. Et bah, après, je me demande comment même ils y arrivent, tu vois. Parce que pareil, c'est une déconstruction. Énorme.
Ouais.
Je sais pas si toi t'as déjà réfléchi à ce concept.
Si tu connais des gens. Ouais, il y a un documentaire aussi sur Netflix qui s'appelle The Minimalist où
okay.
Ils sillonnent les États-Unis et ils vendent leurs bouquins sur les minimalistes. Donc quand même, faut quand même acheter le livre.
Ouais.
Et oui, et puis il y a aussi la vague des tiny houses, les petites maisons qui peuvent. Enfin, il y a plusieurs. Ça peut être pour le relogement social, mais ça peut être aussi pour posséder moins. Parce qu'effectivement, l'immobilier aux US, c'était souvent avoir toujours plus grand, plus gros, avoir trois voitures alors qu'on n'est qu'une personne ou deux. Souvent, le cliché de la petite annonce avec quatre chambres, six salles de bain, enfin, c'est dont on n'a pas besoin, en fait.
Ouais.
Donc, je sais pas, moi, je crois que la réponse, elle est dans l'équilibre, en fait. Elle est
ouais.
dans la mesure de trouver
dans
ce qui nous va
en fait,
bien.
Hein.
Et en même temps, pas penser qu'à soi. Et
ouais.
du coup, ça emmène forcément vers pas d'excès, pas n'importe quoi, pas de trucs débiles ou pas de enfin, je trouve que quand on perd son... Quand on a l'impression de perdre un peu son libre arbitre et qu'on consomme parce qu'en fait on est harcelé toute la journée et qu'on nous a parlé de la 12e exclusivité de capsule de je sais pas quoi, alors qu'en fait on prend deux secondes de recul et on fait ce que j'aime vraiment ce
ouais.
truc. voilà, c'est une question de bien-être mental aussi, de
ouais.
se relaisser de la place pour apprécier les choses et pour avoir une envie impulsive de temps en temps. Enfin, moi, je suis pas du tout dans le minimalisme punitif.
Ouais.
J'y crois pas, j'ai pas grandi à la bonne époque pour ça et je trouve que les excès, c'est jamais bon.
Ouais.
Voilà, de la mesure, de la ouais. mesure dans tout. Et il faut enfin l'équilibre.
T'as réussi à trouver cet équilibre, que ce soit dans la consommation on en parlait dans l'alimentation. Est-ce que c'est quelque chose que t'as eu du mal à trouver dans ta vie ou ça a toujours été assez...
Bah, alimentation, ça a été très erratique ado. J'ai tout fait, tous les excès dans tous les sens. Et voilà. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression de hyper bien manger. Ma famille mange très très bien, mais parce que de notre budget là-dedans et du
ouais.
moins dans d'autres choses
ouais.
et c'est un plaisir fou d'aller acheter les bons légumes de saison, les bons fruits ouais. de saison, découvrir des trucs, de cuisiner. C'est surtout mon mari qui cuisine d'ailleurs, bon, je cuisine pas super bien, j'ai vraiment bien faire des cours. Et voilà, après j'ai arrêté il y a 2 ans et demi bientôt de fumer, de manger de la viande et le coca.
D'accord.
C'est ça, les trois, même temps. Le même jour. Et j'ai jamais repris depuis une goutte, une taf ou un morceau de viande ou de jambon de saucisson ouais. depuis. Et ça a été du coup pas. Enfin, ça fait un peu radical comme ça. Alors que je parlais d'équilibre il y a 2 minutes, mais c'était un. Je pense que c'était un. Il y a un moment où il y a eu le truc de trop qui a fait que ça a déclenché ça. Et après, pour des raisons juste pratiques, je trouve que parfois, faire un choix un peu radical sur un truc qu'on peut maîtriser sans souffrir,
ouais.
c'est plus facile que se faire des exceptions, parce que sinon, je sais plus compter.
Ouais. Moi, là, c'est vrai que ça a été pareil. Ouais.
Voilà.
Radical. Mm. Parfois, je pense que, ouais.
Il y a des sujets où on ouais. sent qu'on peut l'être sans souffrir et sans embêter les autres.
Si surtout quand c'est coup, quelque chose qui nous fait pas du bien, en fait.
Exactement.
En l'occurrence.
Il y avait ça, et moi il y avait un combat un tout petit peu politique, en l'occurrence sur la clope, où je me suis dit, mais peut-être que j'aime bien allumer des films Maurice Bleu, hein, c'est ça, en soirée, et ça, il y a des moments où je sors et il fait beau, et j'ai un verre de rosé, et je me dis, ah là là,
ça ouais, ça passe très bien.
Mais en vrai,
c'est plus le cas.
Ça m'emmerde profondément de donner de l'argent à Phil Maurice, à me dire, ces gens qui tuent
c'est
des
vrai,
millions
c'est
de
vrai,
gens.
Putain.
Et en fait, rien pour ça, je suis hyper fière de ne pas le faire du tout. C'est,
ouais,
c'est pour
ouais,
ça que
ouais.
je veux pas. Parce que l'exception, elle serait possible pour moi, pour ma santé. C'est pas une canette de coca qui va me tuer
ouais.
ou une clope. En revanche, le fait d'être un tout petit peu radical sur un combat auquel on croit, ça, c'est assez agréable, quoi.
C'est vrai. Non, mais ça donne du sens aussi.
Exactement.
À...
Alors
se sent
combattre une petite robe bâche, ça n'a pas de sens. Elles
ouais.
ont rien fait, les filles de bâche.
Ouais,
enfin,
ouais, ouais.
jolies, enfin, qui on va punir, là. D'ailleurs, on peut faire mieux. Enfin, c'est pas pareil. Donc,
c'est vrai.
Ouais.
C'est une bonne réflexion.
Mais je suis hyper contente de ce choix-là, en l'occurrence. Et aussi, depuis que je suis végétarienne, je mange... Alors, j'ai jamais été une viandarde voilà, de folie, mais un bon petit saucisson, une charcuterie corse et tout, c'est quand même trop bon, quoi. Je vais pas le nier. Mais en fait, j'ai jamais autant apprécié... bien manger, en fait.
C'est vrai.
Il y a une époque où c'est possible, et c'est ça qu'on veut rendre possible dans la mode aussi. C'est pas avoir le choix entre 2 t-shirts un peu mollasses en
ouais.
chambre,
VS, celui qui est trop beau parce qu'il est produit par une grosse marque de prêt-à-porter.
Exactement.
Quoi.
Alors tout n'est pas possible. Par exemple, moi j'adore le lurex, on peut pas mettre de lurex parce que c'est métallique et complètement chimique et
ouais.
tout dans notre truc, mais on trouve d'autres trucs, on détourne, on est créatif. Et aujourd'hui, je trouve que dans la food, justement, il y a des chefs de fou qui font
c'est
avec
vrai.
Des légumes.
C'est
y a
vrai.
Des, à côté, on est à Jaja, le tricycle, je pourrais dire
ouais,
les
que ouais. hier encore, une amie m'a proposé d'y aller. Et quand je regardais comment je venais ici, je vois sur la carte, je suis là, ah
non, mais c'est
j'irai voir.
Incroyablement bon.
Ouais.
Et
j'ai goûté leur vegan hot dog au tricycle, c'est très très
bah
bon.
Voilà, et on se dit pas une seconde, voilà, je suis privée de viande.
Ouais,
même
ouais.
on peut manger plus parce que on peut. Moi je sais que chez moi je mange que dans des bols, on se fait des gros bols.
Ouais, j'adore manger dans des bols aussi, je sais pas d'où
bien.
Ça vient, mais.
Il y a aussi le mezzé, quoi, ou la cuisine israélienne, Otolenghi, c'est
ouais.
un mélange de cru, de cuit, de tout
ouais.
est très aromatisé,
ouais.
et c'est trop bon. Après,
ouais.
Je suis pas prête à tous les sacrifices, je mange du fromage, c'est trop bon le fromage, tant pis. Bon.
Non, mais c'est ça, il faut chacun trouver son
ça,
équilibre,
exactement.
Comme on dit.
Peut-être
ouais,
que
ouais.
dans 5 ans, bah, je serai prête pour l'instant.
Ouais, ouais. Bah, y a 2 dernières questions que je veux te poser. Une, c'est en fait d'où vient Patine,
ouais.
le nom Patine.
Mmh. Ouais.
Ouais. Bah, déjà, on va faire celle-là, après, je ferai la dernière.
Ok, bah, c'est très facile. Patine, c'est ce qu'on aimait, l'aspect quelque chose qui vieillit joliment. La patine et la valeur que prend un meuble d'un point de vue émotionnel, plus il vieillit. Et notre point de départ, c'était de faire des vêtements de bonne qualité qu'on veut porter longtemps. Parce que au-delà d'avoir des ingrédients propres, la vraie écologie, c'est d'aimer un peu plus longtemps ses habits. Le problème, c'est le déchet aujourd'hui. Le problème de la société, c'est tout ce qu'on jette et qui ne se recycle pas et qui vient polluer les terres, les sols, l'air. Le problème, il est là. Et donc, quand on achète avec un petit peu plus de conscience, mais surtout qu'on met plus souvent et qu'on garde, là, on résout une partie du gros problème de la mode. Et du coup, comme effectivement on n'est pas des ascètes ou des minimalistes et qu'on aime trop, enfin moi j'ai trop encore le souvenir brûlant d'une super trouvaille chez Zara et enfin j'aime trop les habits et la mode et regarder les défilés et pour le penser ça de manière punitive, je trouve que la manière d'aimer les vêtements c'est quand on a une émotion, donc cette émotion ça peut être plein de choses, ça peut être notre culture partagée, nous on met beaucoup mes rêves culturels des années 80-90, c'est parce que c'est sincère et que vraiment j'adore ça et du coup on partage ces codes avec notre base et ça met de l'émotion dans notre projet.
C'est vrai.
Et aussi le fait de, on envoie souvent des questionnaires avant le lancement pour faire participer notre communauté à la création du vêtement, notamment le jean qui sort en janvier, et on a fait participer notre communauté à sa création et ça aussi ça crée de l'attente, du désir et on est tous à travailler sur le projet plutôt que juste être un vendeur et un consommateur et surtout ça donne des chances au vêtement qui va arriver d'être porté plus longtemps, d'être aimé plus longtemps. Donc voilà. Et après aussi notre plus grand projet plus tard, ça va être comment on accompagne le vêtement une fois qu'il a été vendu pour donner envie de le mettre plus, donc le sublimer, le reteindre, enfin on a plein d'idées,
le customiser et tout. Ouais, je pense que ça a clairement un avenir.
C'était
pas ma génération du tout, moi.
Ouais.
Je crois que c'était un peu peut-être la tienne, celle d'avant, où je voyais parfois sur des poches, tu vois, des filles qui se customisaient des trucs. Mais je pense que c'est un réel avenir et ce côté do it yourself. Et comme tu dis, enfin, j'ai toujours pensé que la mode est un moyen d'expression et ça permet déjà de le rendre unique, je trouve, et de le personnaliser à sa façon.
Et de réactiver l'envie, parce qu'en vrai, on a tous en nous l'envie de nouveauté. Hein. Mon fils, l'autre jour, j'avais acheté des pyjamas, hein, c'était non plus la folie, quoi. Et il me dit, j'adore avoir des nouveaux pyjamas. Je me dis, mais en fait, en vrai, je l'ai pas conditionné à avoir des nouveaux tous les jours, mais on aime trop la nouveauté, on aime les surprises, on aime cette excitation.
Et donc, je suis d'accord.
Si on peut être réexcité de temps en temps par notre placard plutôt que racheter un truc, c'est chouette.
Ouais.
Pour tout ça, patine, c'était la patine, c'était la valeur que prend quelque chose avec le temps. Et on a bien aimé ce mot, il est sorti un jour en déjeunant.
Ouais, c'est souvent comme ça.
Et on se dit, ah, mais c'est bien. Et puis en plus, c'est facile à écrire. Et du coup, sur.
Et on
sur,
le retient bien web, et tout.
Et il se trouve en plus, on pouvait pas le prévoir que ça se retient pas mal.
Ouais.
C'est chouette.
Ouais, mais j'aime beaucoup. Bah, c'est super de connaître en plus l'histoire derrière, parce que je me doutais qu'il y avait une bonne histoire. Et du coup, la dernière question, c'est une question personnelle. Ça signifie quoi pour toi? Prendre le pouvoir de sa vie.
Waouh.
Vous n'avez pas 4 heures.
Vous avez 4 secondes. Prendre le pouvoir de sa vie, je vais parler de moi. Moi, c'est vraiment faire tous les matins ce que je rêvais de faire. Donc, avoir me connaître assez pour connaître mon rêve et le faire en vrai.
Alors, ouais.
Et je trouve aussi, prendre le pouvoir, c'est quand on arrive à être... dans l'action, c'est-à-dire il y a une différence entre rêver quelque chose, le formaliser et ensuite faire, agir.
Ouais.
Et parfois c'est très très long. Moi j'ai été hyper longtemps dans le rêver et je le suis encore souvent.
Ouais.
Mais avec Patine, je découvre ce que ça veut dire de s'obliger à formaliser, formuler, se dire en vrai qu'est-ce que je vais faire et ensuite passer à l'action. Et ça c'est une fois qu'on est vraiment dans le projet et que c'est par petits pas, hein, c'est un petit truc qu'on a fait, là on prend le pouvoir, on est en maîtrise en fait. Donc, et ça peut se traduire partout, enfin dans plein de choses. Mais... être dans l'action par rapport à dans réaliser son rêve en vrai, agir.
Ouais, super. En plus, je suis totalement d'accord avec. Donc, on conclut parfaitement. Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue sur une Power.
Ouais. J'ai des travaux, c'est cool.
Ouais, mais genre une petite rue à pavé qui est magnifique. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller découvrir vos super t-shirts, / pulls, / bientôt jeans, culturels et responsables?
Donc, sur patine.fr, on est distribué que chez nous. C'est vraiment exclusivité. Et puis, sur notre compte Instagram, c'est Patine Paris.
Ouais.
Et puis, en message privé, en commentaire, on peut me parler. Je suis là.
Ok, je mettrai tout ça dans les notes du podcast.
Super.
À très bientôt, Charlotte.
Ciao.
Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette discussion avec Charlotte. Si elle vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en vous abonnant et en partageant l'épisode à vos amis ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse le voir et vous répondre avec grand plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.